cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Eh bien alors, bienvenue dans notre émission 100% locale « Cultivons notre jardin ». Cette émission, comme d'habitude, vous est présentée par Nat et Jackie, et nous vous parlerons de jardinage au naturel, mais pas que. Bonjour à Nathalie.
Salut Jackie.
Comment ça va?
Ça va bien, merci, et toi?
Eh bien écoute, ça va, cette nouvelle émission, cette nouvelle forme d'émission, je trouve que c'est pas mal, ça nous laisse plus de temps. Donc, puisque maintenant on va avoir une heure pour la passer avec les auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Hein, vous avez le droit aussi.
Si c'est trop long, si vous voulez qu'on en enlève, vous le dites.
Voilà. Donc, il y a de nouveaux horaires. Tu nous en parles, Nathalie ?
Oui. Maintenant, comme on est très connus, en fait, ils nous ont demandé d'être diffusés le jeudi entre 12h30 et 13h30. Alors, Jackie a dit oui tout de suite. Alors, j'ai dit bon, ben d'accord, si Jackie est d'accord. Voilà, sinon vous pouvez toujours réagir et nous laisser vos messages, vos questions, vos interrogations sur, par courriel à redac@48fm.org ou bien sur la page Facebook de la radio. La dernière fois, on a parlé de la map du Gévaudan qui est à Mende. Et si jamais vous voulez les coordonnées, par exemple, ben, pareil, vous nous envoyez un petit mail et ça marche, on vous répond. Et puis, il y a aussi les émissions sur Internet, Jackie.
Eh bien oui, vous pouvez toutes les réécouter parce que là, quand même, c'est la 20e. Donc, il y a 19 émissions qui sont disponibles dans la rubrique chronique. Et dans la rubrique chronique, eh bien, vous allez sur Cultivons notre jardin et merveilleusement, vous avez toutes les émissions déjà enregistrées. Donc, sur le site internet, je vous donne les coordonnées www.48fm.org. Voilà. 48 FM, n'oubliez pas, c'est la radio sans OGM.
Ah, merci Jackie pour cette précision. Voilà, n'hésitez pas à aller réécouter les émissions, comme ça vous aurez tous les bons conseils avisés de notre ami Jackie le jardinier.
Quel luxe.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait raconter, Jackie? Ben, la dernière fois, on a fait un petit peu le bilan de la saison d'été qui était bof. Et là, ben, du coup, on va commencer à réfléchir à ce qu'on fait pour cet hiver au jardin, réfléchir à la prochaine saison, tout ça, un petit peu les perspectives.
Oui, absolument. Mais pour avoir des perspectives sur la nouvelle saison, eh bien, effectivement, comme on l'a fait la semaine dernière, il faut bien avoir dans la tête que il faut toujours faire le bilan de la saison passée. Mmh. On a vu au niveau du climat que ça évolue, que ça change, que ça va être de plus en plus chaud et sec sans doute. En tout cas, même si on aura sans doute quelques périodes de froid, pour l'instant, c'est pas comme ça que ça se dessine, mais ne sait-on jamais. Et donc, déjà, d'envisager la nouvelle saison, c'est de bien se souvenir qu'est-ce qui s'est passé cette saison passée, où normalement, en fin de saison, on a semé les engrais verts. Hein, c'est encore temps. N'hésitez pas à le faire. Les engrais verts, c'est en fait des plantes qu'on va semer et qui vont remonter tous les oligo-éléments qui sont dans le sol. Et en fait, ça va engraisser notre jardin. La chose à ne pas faire, c'est de les laisser en graines. Hein. Donc, quand vos engrais verts sont en fleurs, vous coupez tout en vitesse et vous le laissez sur place. Voilà. Il faut bien penser que tous les sols pour l'hiver doivent être recouverts. C'est la meilleure solution.
Une petite couverture pour la terre.
Voilà. Il faudra aussi ramasser les derniers légumes.
Ah oui, quand même.
Je vous dirais que moi, je fais toujours attention à la lune. Et je ramasse plutôt mes légumes en lune descendante qu'en lune montante, de façon à ce que ça se conserve mieux. Le meilleur exemple, c'est souvent les pommes de terre. Hein, quand les pommes de terre sont ramassées à la mauvaise lune, souvent, on ne sait pas trop pourquoi, mais cette année, qu'est-ce que ça a germé dans la cave, mes pommes de terre? Eh bien, ça vient souvent de la période de ramassage. Donc, on fait attention à la lune aussi pour ramasser ses légumes.
On aime bien la lune avec Jackie. On en a souvent parlé dans nos émissions. Et tu sais pas, Jackie, j'ai trouvé une information. Je te disais que moi, la lune, elle m'empêchait de dormir.
Oui.
Ah, ils ont prouvé scientifiquement que pendant la pleine lune, et genre des 2-3 jours avant, au moment de la montée de la pleine lune, eh ben en fait, notre cerveau sécrète 30% à peu près en moins de mélatonine, l'hormone du sommeil. Mm-hmm. Donc en fait, visiblement, il y a réellement un lien physiologique entre la pleine lune et notre sécrétion d'hormones du sommeil. Voilà pourquoi je dormirai moins bien quand c'est la pleine lune.
Voilà, et donc t'es pas malade du tout.
Et je suis pas bizarre du tout, on est bien d'accord.
Voilà, des fois ça peut être rassurant aussi. Non, mais de toute façon, l'attraction lunaire, c'est vrai que c'est un phénomène tellement important avec, quand on le voit sur les marées, qu'on peut bien imaginer quand même qu'il se passe quelque chose. Il y a toujours des gens qui vous diront le contraire.
Toujours.
Mais il y a des croyants et des non-croyants. Et on peut très bien vivre ensemble.
Hein. C'est pas grave. Hein.
Voilà. Alors donc, je vous disais aussi qu'il allait falloir laisser le terrain couvert pour l'hiver. Hein. On peut même repailler par-dessus, etc. C'est vrai dans tous les terrains, sauf quand même les terrains qui sont très argileux. Parce que si on a un hiver qui est un peu pluvieux, on risque d'avoir quand même... la terre ne s'aère pas assez. Donc quand mon terrain est très argileux, eh ben, c'est les seuls terrains que je ne vais pas couvrir pendant l'hiver.
Ça va faire chewing-gum sinon. Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis en plus, ça va empêcher de respirer surtout. Hein. C'est bien le... Voilà. D'accord. Donc...
Et c'est pas le moment de tailler un peu aussi?
Alors, puisqu'on va être à l'automne, là, on va tailler les arbustes, les arbres qu'ils demandent. Moi, je vous conseille toujours des tailles à les faire tous les ans plutôt que d'attendre 5 ans, voire 10 ans.
Oui.
Parce qu'après, on va scier des grosses branches, on ne va pas trop savoir où on en est, etc. Des grosses branches, ça veut dire des grosses cicatrices, ça veut dire des grosses difficultés pour cicatriser. Et donc, il faut mieux tailler moins, mais tous les ans, c'est une bonne chose. En plus... Si je taille, je vais avoir des morceaux de branches que je vais mettre en tas. Pardon. des fois, sur les mots les plus simples, on peut buter. Hein. Donc, ces branches, ou bien je les débite et je les mettrai dans un coin pour faire du compost.
Pour le hérisson.
Ou bien pour faire un tas pour le hérisson, mais pas seulement. Hein.
Oui.
Plein de petites bestioles vont pouvoir trouver un gîte pour l'hiver dedans. Et vraiment, c'est pas sale d'avoir des branches dans un coin du jardin. C'est un autre coin vivant qui va protéger beaucoup de bestioles.
Oui.
Alors, qu'est-ce que je vais faire aussi dans cette période-là ? Eh bien, je vais ranger les fruits de garde. Alors là, c'est quelque chose que je pourrais essayer de vous expliquer. Quand on achète les fruits, maintenant, on achète... On mange, on achète, on mange. À n'importe quelle période, je vais trouver des pommes ou des poires, je vais les acheter chez le commerçant et je vais les manger. Quand j'ai des fruitiers au jardin, il faut savoir que en fait, tous ces fruits sont ramassés tous à peu près à l'automne, hein, sauf les plus hâtifs que je vais ramasser à partir du mois d'août-septembre. Certaines pommes, certaines poires comme ça, très hâtives que je vais ramasser à ce moment-là. Mais il y a des pommes ou des poires que je vais garder jusqu'au mois de juin.
Hein. Oui.
On va pouvoir les manger au mois de février, au mois de mars. Maintenant, les gens ont perdu cette habitude parce qu'avec la consommation, on consomme au fur et à mesure. Sachez que ce n'est pas les mêmes variétés que vous allez manger au mois de novembre et au mois de février. Vous n'allez pas trouver les mêmes variétés chez vos commerçants parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des fruits de garde. Donc, ces fruits vont être gardés pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, si on ne les mange pas à la bonne période, eh ben, on va les trouver pas bons. On va les trouver acides, etc. Parce qu'il faut un temps de maturation aux fruitiers. Hein. En général, c'est à la cave, dans des clayettes bien aérées pour que les fruits puissent donner tout leur goût et tout leur sucre.
On a la poire curée qui est comme ça. Tu la connais, ça ?
Voilà, oui, mais ça, c'est un des exemples. Hein, oui. Cette poire curée qui va être ramassée au mois d'octobre et puis qui va être consommée... pas avant le mois de février, hein, elle sera pas bonne avant.
Non.
Donc voilà, sinon elle sera très dure et en même temps très acide. Hein. Il faut une maturation. Alors quand on est dans les fruits comme ça aussi, dans mon verger, j'ai toujours des fruits qui sont tombés par terre que je vais laisser par terre parce que j'ai la flemme de les ramasser. Et ça, c'est une double erreur.
Oui.
En fait, sachez que ces fruits qui sont tombés prématurément, ça veut dire que ou bien ils ont eu une attaque d'insectes, qui a mangé l'intérieur et qui les a fait tomber. Ça veut dire aussi que la larve qui est à l'intérieur de mon fruit, bah, tranquillement va sortir de mon fruit, faire une chrysalide dans le sol, et un papillon va ressortir au printemps qui va à nouveau me pondre sur les fleurs, pour, etc., et continuer le cycle. Donc un des moyens d'arrêter ça, bah, c'est bien de ramasser ces fruits. Et il y en a d'autres aussi qui vont être tombés à cause de champignons, la moniliose entre autres, hein, qui est une moisissure qui va se développer sur le fruit. Et en fait, si je le laisse au sol, ben, cette moisissure, par les spores, va se propager. Et l'année suivante, eh ben, je vais avoir de plus en plus de désagréments comme ça. Donc une manière d'alternative aux pesticides, eh ben, c'est aussi de faire attention à ça. Je n'aurai pas besoin de produits.
Voilà, je nettoie sous mes arbres fruitiers. C'était un petit clin d'œil aussi à Françoise Demande. Je ne sais pas si tu te rappelles, elle nous avait demandé l'an dernier cette histoire de pommiers.
Oui. Hein? Alors,
où elle laissait effectivement les fruits tomber.
Voilà.
Et ensuite, les fruits étaient pleins de verre à chaque fois les années suivantes.
J'avais expliqué même un système qui était de mettre du carton autour du tronc. Mais voilà. Ça, on le refera à la bonne période, oui. C'est-à-dire dans quelques 6 mois, on en reparlera. Parce que effectivement, ces verres indésirables dans les pommes, eh ben, on peut essayer de les éviter au moins en partie.
Alors, qu'est-ce que, en termes d'aménagement, je pense qu'on a un petit peu des choses à faire. Hein. On va faire des petits tas de branches, ta-ta-ta, pour nos amis les hérissons.
Voilà.
On va couvrir le sol, on va lui mettre une petite couverture. Qu'est-ce qu'on va ramasser les fruits sous les arbres? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire, Jackie?
Eh bien, on va penser aux petits oiseaux, un petit peu, hein, parce qu'on est dans la biodiversité.
Oui.
Donc, si j'ai eu de la chance, mes nichoirs ont été occupés pendant l'été. Mmh. Et donc, sachez que les oiseaux cavernicoles qui vont dans ces nichoirs refont un nid chaque année. Donc, ça veut dire que les nids que j'ai, eh ben, c'est un bon moyen, là, un bon moment pour les vider. Parce qu'il faut savoir que ces petits oiseaux cavernicoles refont leur nid chaque année, vont ramener beaucoup de mousse, de plumes, de crins, de choses comme ça. Et puis, il y a toujours des petites bestioles qui vont se développer là-dedans. Il y a eu des petits oiseaux qui ont été élevés aussi. Donc, on va en profiter pour bien les nettoyer. Et donc, toi, tu as un excellent produit pour ça.
Oui, un petit coup de vinaigre blanc, c'est parfait.
Voilà. Donc, pensez à le faire parce que ça évitera que des maladies se développent. Hein. Il y a certaines maladies spécifiques pour les mésanges, par exemple, ou autres,
oui,
qui ont été repérées en Lozère. Et c'est un bon moyen.
Oui,
pourquoi je fais les nichoirs à l'automne et pas au printemps? Parce que ces nichoirs, ils vont aussi servir à quelques oiseaux un peu fatigués, voire un peu malades, qui, dans les nuits froides, vont pouvoir y passer quelques nuits comme ça pour se retaper. Et puis, sachez aussi que s'il y a des oiseaux qui y vont, qui les repèrent, dès le printemps, ils vont venir faire leur nid dedans. Mmh. S'ils les ont vus depuis un moment, ils vont s'être habitués à les voir. Et donc, on a d'autant plus de chances qu'ils fassent leur nid. Alors,
attends. Juste pour bien préciser aux gens, c'est quoi la bonne période pour vider les nichoirs et les nettoyer, Jacques?
À l'automne.
À l'automne.
Hein. Donc, octobre-novembre, là, c'est même octobre, hein, c'est très bien, là.
Okay.
C'est un mois où on peut faire ça. Parce qu'on va aussi penser à sortir la mangeoire.
Oui.
C'est toujours intéressant d'avoir les deux choses, hein, pour les oiseaux, la mangeoire et le nichoir. La mangeoire, c'est pareil. On va, grâce au vinaigre blanc de natte, on va bien nettoyer notre mangeoire.
Ah,
et puis souvent, moi, c'est à partir du 1er novembre que je vais commencer à distribuer des graines de tournesol.
D'accord.
Pas de pain, pas de
pas
de choses comme ça.
Non, hein. Non, des choses naturelles que l'oiseau, voilà, pourrait trouver tout seul.
Tout à fait naturel, qui pourra assimiler. Dans le pain ou les biscottes ou autres, il y a du sel.
Et, oui,
et ça, les oiseaux ne savent pas digérer le sel. Mmh. Donc, c'est la meilleure chose, c'est la graine de tournesol qui est riche et donc qui va pouvoir se transformer en graisse pour que les oiseaux se sentent un petit peu protégés l'hiver, se réchauffent comme ça.
Oui, avant de donner à manger à un oiseau, on se demande qu'est-ce qu'il aimerait bien manger. L'oiseau, c'est plus sympa pour lui. Ça, c'est comme les canards et le pain. Hein. Les canards et le pain, ça fait pas, c'est pas génial. Hein.
C'est pas génial.
Non.
C'est pas. Non, non, mais.
Ça fait plaisir, mais c'est pas génial.
Voilà. Donc, pour l'hiver, les graines de tournesol, c'est tout à fait adapté.
Pour les gens qui n'en ont pas planté des tournesols, ils peuvent trouver des sachets de graines de tournesol en jardinerie ou dans les coopératives. Hein,
oui, et d'essayer d'en trouver du bio, d'ailleurs.
Ouais, hein,
c'est plus difficile,
mieux.
Mais...
Mais là, pour le coup, les tournesols...
Ça vaut le coup, il y a la LPO sur l'Aveyron ou autre. Il y a l'Alep aussi qui distribue comme ça des... Enfin, qui vend. Hein,
oui.
Je dis distribue parce qu'en fait, c'est sans bénéfice. Hein, mais ça permet de faire fonctionner un producteur bio. Mmh. Et puis voilà, ça rassemble un petit peu les gens autour d'une opération comme ça, l'opération tournesol. Donc, n'hésitez pas, mais prenez plutôt du bio.
Oui, mais surtout du bio. Allez.
Voilà. Dans les petits aménagements aussi, quelque chose que les gens oublient un petit peu souvent, c'est le compost.
Oui.
Puisqu'en fait, on est en fin de saison, on ne va plus s'en servir. Il y a les arbres qui tombent leurs feuilles. Et ben moi, je mets une couche de 20 à 30 cm de feuilles au-dessus de mon compost. Ça va lui permettre de continuer à se faire et donc d'être utilisable dès le printemps.
Et tes déchets verts de l'hiver, tu les mets où ?
Et mais dans l'autre tas de compost.
Dans le hein nouveau compost que
voilà,
tu mets en route.
Voilà.
On est d'accord.
Absolument. Et puis j'en mets surtout beaucoup, beaucoup en paillage. Parce que même,
ah oui,
on peut mettre en paillage des déchets verts qui vont être aussi transformés par les vers de terre du sol.
La peau de banane, c'est hyper efficace. Allez, on va faire une petite pause musicale avec une chanson choisie par Jackie cette fois, mais que j'aime beaucoup aussi, que j'aurais pu vous choisir. Il s'agit d'Otis Redding avec Dock of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. Do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.
Voilà, après cette courte mais magnifique pause musicale, nous revoici avec Jackie. Et voilà, alors Jackie, on va commencer à réfléchir à notre hibernation. Hein, t'es bien d'accord ?
L'idée de réfléchir,
oui,
c'est en fait à mon futur jardin.
Ah mince !
Je vais en fait, pendant l'hiver, c'est à peu près le seul moment où je suis tranquille pour me dire, mais l'année prochaine, qu'est-ce que je vais semer ? Qu'est-ce que je vais planter ? À quel moment ? Justement, par rapport à ce que j'ai pu observer aussi au fil des années comme ça, à ce que j'ai pu noter sur mon petit carnet,
oui,
parce qu'il est important aussi, si je m'en souviens pas très précisément, d'avoir noté où se situer, par exemple, mes légumes racines, mes légumes fruits, mes légumes feuilles, mes légumes fleurs, de façon à faire déjà au moins la rotation des cultures. Hein, c'est-à-dire que comme ces familles de légumes ne vont pas absorber les mêmes oligo-éléments, il est important de les faire tourner. Donc moi j'ai tendance à penser dans un grand jardin en fait d'avoir la façon de faire, c'est je diviser en quatre et puis en fait se dire comment pousse une plante. Par exemple, dans le premier carré, je vais avoir mes racines. Dans le deuxième,
les légumes racines,
donc comme carotte, betterave, radis, voilà. Etc.
Okay.
Dans le deuxième, les légumes feuilles qui peuvent être les poireaux ou les salades, par exemple. Dans le troisième, les légumes fleurs. Alors, légumes fleurs, ça va être les choux-fleurs, les brocolis, voilà.
Ouais.
Artichauts. Hein, oui. Qui sont des légumes fleurs aussi. Et dans le quatrième, en fait, j'aurai mes légumes fruits. Donc, ça peut être aussi bien les tomates que les courgettes. Hein.
Voilà.
Voilà. Et ensuite, chaque année, je vais tourner d'un quart de tour. Et comme ça, ma rotation se fait facilement. Il y a d'autres méthodes. Hein. Moi, j'ai un jardin du côté du lac du Moulinet, là-haut, à côté d'Aumont, et où, en fait, je fais que deux catégories de légumes. C'est un peu loin de chez moi, donc voilà, j'ai la moitié qui est en légumes racines, hein, où j'y cultive effectivement là aussi oignons, betteraves, carottes, et l'autre moitié qui est en fait des légumes fruits, pois chiches, haricots blancs, haricots verts. Et en fait, et ben simplement sur la moitié, d'année en année, j'intervertis et ça va simplement. Très très bien.
Ben voilà, faut parfois faire très simple. Hein.
Voilà. Donc,
ça peut paraître compliqué ces histoires de rotation,
oui,
mais
oui.
En fait non, il faut le comprendre.
Il faut le comprendre que voilà, les plantes ont besoin d'oligo-éléments pour pousser, des oligo-éléments différents.
Voilà.
Alors après, il y a quelques complications comme ça, quand on avait parlé des engrais verts, à savoir que l'engrais vert que je vais mettre va avoir aussi un rapport avec les plantes que je vais mettre derrière. La moutarde ne doit pas être mise avant le chou. Par exemple, parce que ce sont deux brassicacées, donc c'est la même famille et ça va manger les mêmes oligo-éléments. Voilà. Mais bon, ça, c'est des détails, on y reviendra peut-être dans d'autres émissions.
Oui, au fur et à mesure de l'année.
Ce qui est important aussi, c'est les associations de légumes. Ça, alors, il faut avoir une petite bible ou il faut aller voir sur Internet un petit peu. Il y a des bouquins très sympas qui ont été écrits là-dessus, comme par exemple « La fraise aime le poireau
».
C'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre côte à côte, comme ça, des plantes qui ont quelque chose à voir entre eux, qui vont s'aider dans la façon de... où elles vont développer leurs racines, hein, au niveau de la terre. On a vu ça avec des beaux bouquins sur les arbres, où on comprend qu'il y a toute une vie à l'intérieur du sol. Donc, on va pouvoir aussi faire attention aux associations de légumes. C'est pour ça que je disais, l'hiver, on a le temps pour réfléchir à ça. Je me prends un papier, un crayon, je me refais le plan de mon jardin, je vois ce qui peut coller ou ce qui ne va pas coller. Dans les associations, y a aussi effectivement de planter, par exemple, des œillets d'Inde dans les carottes qui vont lutter contre certains vers nématodes, puisque la plante est nématocide, donc je vais mettre ça à côté de mes tomates. Ça évitera à ces vers de manger les racines de mes tomates. Si...
Et tiens, en parlant de tomates,
oui.
J'ai une copine, moi, ces tomates, elles se font manger vertes par une petite chenille.
Oui, alors ça, c'est...
C'est qui, la chenille ?
C'est un indésirable, hein. C'est une chenille qui fait un papillon, qui mange les tomates comme ça.
Un papillon de nuit,
apparemment. Il faut absolument, dès qu'on voit les trous dans les tomates,
enlever
la tomate.
Ouais, c'est ce qu'elle fait, mais il n'y a pas d'autre solution.
Il n'y a que ça. Non, il n'y a pas d'autre solution.
Elle chasse les papillons.
Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on les... Les papillons qu'on voit ne sont pas exactement les mêmes, parce qu'on imagine qu'une chenille, pour qu'elle commence à être grosse comme ça, à rentrer dans les tomates, bah, elle a été pondue au moins un mois avant. Quoi.
Donc, ah oui, voilà, l'œuf oui.
est.
On est d'accord.
Voilà. Donc, c'est toujours un petit peu. C'est pas systématiquement, ça revient pas systématiquement d'une année sur l'autre. Hein. Voilà, éliminons les tomates qui, voilà, disons-nous que c'est pas sur toutes les tomates, hein, donc on peut en perdre quelques-unes des tomates. Hein. C'est pas très grave. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire ça aussi quand j'ai des choux qui sont pris par les pucerons, par exemple. Et ben, on peut en abandonner un ou deux aux pucerons.
Oui.
Et puis voilà, de toute façon, on se rend compte qu'en fin de saison, il y a toujours deux ou trois qui vont passer au compost parce qu'on finalement, on les a pas ramassés, etc. Donc, donc voilà. Alors, c'est aussi un moment, l'hiver, comme ça, où on va se dire, mais attends, y a des gens, par exemple, qui ont fait construire et puis qui se disent, je voudrais faire un jardin, mais pour l'instant, j'avais mis tout en herbe, comme ça, c'était beaucoup plus simple. On va prévoir de faire un jardin, c'est à l'emplacement, eh bien, se procurer des grands cartons, et dès l'automne, de mettre ces cartons deux ou trois épaisseurs, hein, des pierres par-dessus, à l'emplacement du futur jardin, au lieu d'introduire pour détruire l'herbe. Cette herbe, elle va se détruire toute seule, elle va déjà me servir d'amendement. Et puis, au printemps, au mois de mars ou avril, on va retirer les cartons. On va se rendre compte que déjà, il y a les vers et tous les éléments vivants du sol qui auront travaillé sous ce carton. Et en fait, ça va être beaucoup plus facile de commencer à faire un nouveau jardin.
Cultivons notre jardin.
Alors, voilà arrivé maintenant le moment de la chronique de Nat.
Oui.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Ben, écoute, comme la dernière fois, on va finir notre petite parenthèse sur la map du Gévaudan. Donc, je rappelle, Association de maintien d'une agriculture paysanne de proximité. La map du Gévaudan à Mantes, c'est une association qui réunit des producteurs locaux et des consommateurs. Donc, association très conviviale et très intéressante pour les gens qui ont envie de savoir un petit peu ce qu'ils mangent et qui leur permet de bénéficier de prix de vente direct du producteur au consommateur. Donc, ce n'est pas inintéressant. Voilà. Et donc, à la map du Gévaudan, on a Séverine et Hélène, les maraîchères, qui nous ont expliqué la dernière fois comment elles cultivaient et ce qu'elles nous proposaient dans leur panier. Et puis, on a tout un tas de producteurs. Et on a aussi un fabricant de pâtes bio qui s'appelle Julien Tos. Sa société s'appelle Vers l'Est. Et donc, il est fabricant de pâtes bio au Pompidou. Et il va nous parler de culture de céréales, notamment de blé dur. Nous l'écoutons. À toi, Julien.
Je suis Julien Tos. Et je suis fabricant de pâtes depuis 2014 au Pompidou. Production et éco-geste, en fin de compte, c'est la même chose. Moi, mon idée au départ, c'est de relocaliser cette filière, de réussir à remettre en culture des blés durs qui sont adaptés à la fabrication de semoule pour faire des pâtes. Remettre en culture une céréale qui est plus tellement à l'honneur, parce que c'est plutôt le blé dur, une plante qui a besoin de plus de conditions climatiques qu'on n'a pas forcément en Lozère. C'est une céréale méditerranéenne qui est surtout cultivée de l'autre côté de la Méditerranée et en Italie. Donc on a fait des essais pour la remettre en culture par ici. Les essais les plus concluants, ils sont quand même dans le Gard, pas en Lozère. Mais petit à petit, on arrive à des résultats pas trop mal.
Eh bien oui, effectivement, le blé dur qui pousse un petit peu mieux dans le Gard qu'en Lozère, bon, c'est pas super étonnant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jackie ?
Eh bien, quand on a parlé plusieurs fois hein, ici de s'adapter à ces nouveaux changements climatiques, voilà peut-être une culture qui correspond tout à fait à ça. Se dire, est-ce que ce ne serait pas intéressant, justement ? On a du temps de plus en plus chaud, de plus en plus sec, donc finalement de plus en plus méridional.
Ouais.
Est-ce que, justement, on pourrait pas... voilà, une culture qu'on pourra sans doute adapter... Alors, ça commence à se faire, hein, mais pourquoi pas dans 20 ans, peut-être que ça sera tout à fait adapté à nos conditions météo. Moi, ça me paraît quelque chose de très intéressant quand on nous dit que dans les années 50, hein, 2050, normalement, on n'aura plus de vignes autour de la Méditerranée. Hein,
il n'y a plus de vignes, ça veut dire plus de vin, Jackie.
Oui, non, mais par contre, ça, en 2050, j'avais entendu une émission où on disait que le Cotentin irait très, très bien pour avoir des vignes. En fait, le côté méridional remonte. Et donc, voilà, c'est concluant dans le Gard en ce moment. On n'est pas si loin du Gard, du climat du Gard. Gageons que il a fallu des gens comme Julien, comme ça, pour commencer des choses. Au départ, tout le monde n'y croit pas. Et puis finalement, 10 ou 15 ans après, on se rend compte que c'était des précurseurs et des malins. Donc, espérons pour lui, en tout cas, que cette initiative soit vraiment une nouvelle forme de culture, une nouvelle plante qu'on va adapter. Et moi, je pense que de toute façon, ça, c'est la bonne solution.
Bah ouais, et puis quand même, je voulais dire que les pâtes de Julien, c'est quand même pas la même chose que des pâtes qu'on peut acheter comme ça ailleurs dans le commerce. On a un produit qui est de qualité, qui est très nourrissant par rapport à des pâtes de supermarché, disons-le. Mm-hmm. Voilà, donc c'est vraiment, on n'a pas du tout affaire au même produit en fait, c'est juste ça.
Eh ben oui, bien sûr. Comme pour les fruits, comme pour les légumes, hein, tout ce qu'on dit comme ça, il est bien évident que l'intérêt d'un petit producteur, c'est de faire du bon. L'intérêt d'un grand consortium commercial, c'est de faire de la quantité. Et donc, gardons le bon chez nous.
Oh oui, si on peut, ce serait mieux, effectivement. Bon, maintenant, Jackie, on va passer à notre agenda des activités, puisqu'on a quelques manifestations là, qui peuvent être sympas pour nos auditeurs.
Eh bien, on va essayer ça. Jardin Nature 48, l'association qui sera à la fête de la noix le dimanche 13 octobre, toute la journée, à Chanac. Une nouvelle fête sur Chanac, à l'initiative du foyer rural. Venez nombreux à Chanac. Oui. C'était le berceau de la noix, la ville de Chanac. Et voilà, peut-être que cette fête va perdurer grâce à vous si vous y venez.
Ben voilà, faites l'effort d'aller y faire un tour pour les encourager. C'est chouette de lancer un nouveau truc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sinon? Le foyer rural Tarnon-Mimente qui organise encore une fête, la deuxième fête des vergers à Vébron le 27 octobre, toute la journée avec de nombreux ateliers, conférences, projections de films, expositions de fruits, c'est original, détermination fruitière, table de troc et stand associatif vous y attendront.
Jardin Nature 48 organise une conférence sur le travail du sol en automne. Donc ça, ce sera le mardi 13 novembre, hein, un mardi soir à 20h30, à Mende, dans la salle des associations.
D'accord, au Foirail, ok.
Voilà.
Bon, mais encore Jardin Nature 48 qui organise un atelier de taille d'automne le samedi 16 novembre à 14h30 à Vébron, dans le jardin de qui ? On ne sait pas encore. sera une surprise.
Ce sont des adhérents de Jardin Nature 48. Alors, ça pourrait être intéressant parce que c'est à Vébron aussi. Donc, ceux qui auront loupé la deuxième fête des vergers pourront y venir. Hein. Et puis, ceux qui se sont régalés à la fête des vergers, mais qui ont l'impression de ne pas avoir encore tout compris, ce qui ne serait pas du tout étonnant. Hein. C'est plutôt un signe d'intelligence parce que la taille, c'est très compliqué. Eh bien, ils pourront venir révisé donc le samedi 16 novembre à 14h30 à Vébron. Voilà.
Ok, super. Merci, Jackie.
Alors maintenant, on va faire une dernière pause musicale.
Oui.
Donc avec la petite chanson de fin d'émission, mais là, c'est pas une petite chanson.
Ah non.
C'est vraiment une grande chanson. Ouais. Alors, ça a été choisi par Nat, mais j'aurais très bien pu le choisir aussi. Décidément, on peut se retrouver aussi là-dessus.
Absolument.
Donc, on va entendre Robert Charlebois nous chanter Lindbergh.
Ah ouais, avec Louise Forestier qui fait le cri de la mouette de manière inimitable. Je ne sais pas pourquoi cette période me fait penser à cette chanson. Allez savoir pourquoi. Allez, à bientôt sur 48FM. À bientôt, Jackie.
À bientôt, tout le monde. Zélie.
Astro Jet, Whisper Jet, Clipper Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. Qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir? Alors je suis parti sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais je sais plus où je suis rendu. Au soleil bleu, blanc, rouge, les palmiers et les cocotiers glacés. Dans les ponts, nos esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées par-ci. Et toujours ma Sophie qui venait de partir sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais je sais plus où je suis rendu. Il y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient le ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis parti sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais je sais plus, je sais plus, je sais plus, je sais plus où je suis rendu. Sophie à moi a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie, c'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, j'ai rendu à dos de chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais je sais plus où je suis rendu. Et j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Chris. Et j'ai retrouvé ma Sophie.
Chris.
Elle était dans mon lit. Avec mon meilleur ami, et surtout mon pot de biscuits à l'érable que j'avais ramassé. Hey, hey. Sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, puis Pan-American.
Mais...